Merci d'être présent donc pour cet événement un petit peu atypique qui s'appelle les consultations citoyennes. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des consultations citoyennes ? Levez le bras, pas tous en même temps, d'accord. Donc voilà, donc c'est un exercice un peu particulier de démocratie locale, participative sur l'Europe dont je vais vous parler. Je vais commencer bien sûr par remercier les personnes qui sont sur scène. Commencer bien sûr par Laurence Aubron, pour essayer d'être galant, qui nous arrive donc de Nantes, bien sûr, tout simplement, puisque c'est là que tu vas nous expliquer où ton aventure radiophonique a pris corps, comment est-ce qu'elle a permis de mettre de l'Europe dans le territoire, de former aussi beaucoup de jeunes et qui aujourd'hui, en effet, ont une action professionnelle, médiatique, journalistique en Europe. Ce sont des gens qui pensent toujours à Nantes. Hein, et qui pense toujours à l'Europe. Donc, je crois qu'on a un vrai projet culturel et européen ce soir, grâce à Laurence Aubron. Voilà, nous avons aussi Norbert Fradin, qui lui arrive d'une discussion, je crois, avec le musée Marmottan, du fait de son grand projet de musée de la mer et de la marine, qui est donc le nouveau bébé culturel qui va arriver donc à Bordeaux en juin, je crois. Et Norbert Fradin va pouvoir comme ça nous expliquer comment est-ce qu'il a dans sa vie des dynamiques différentes et qui évidemment la culture étant certainement un moteur, un substrat qui vous aide peut-être à avancer dans vos autres activités aussi. Et puis qui aboutit avec ce musée de la mer et de la marine qui peut être un bon sujet pour nous pour voir comment est-ce que localement on a une identité. Une citoyenneté qui se vit à travers l'objet maritime, qu'on peut être à la fois bordelais, français, européen, que peut-être un arc atlantique, en effet, peut nous réunir, comme d'autres, en effet, d'autres choses. Voilà, donc c'est ce que j'espère on va pouvoir évoquer avec Norbert Fradin ce soir, que je remercie d'être présent. Et bien sûr, nous avons Jérôme Clément ce soir, autour duquel on est très heureux de se réunir, qui, donc pour certains, était présent tout à l'heure pour la signature de son livre « Brève histoire de la culture », qui donc expliquait en effet beaucoup de choses qui ont trait à notre discussion ce soir sur la citoyenneté, la culture, les médias. À partir de quand est-ce qu'on parle une langue vulgaire française ? Je crois que c'était à Strasbourg d'ailleurs que cette discussion a été prise par des hommes d'église. Donc on voit que Strasbourg est aujourd'hui encore un lieu, un marqueur, en effet, de cette Europe avec son Parlement qui est si cher aux Français, bien sûr, mais aussi à quelques Européens. Voilà, comment est-ce que cette culture nous lie de par l'histoire et puis, bien sûr, à travers son parcours et ses projets, dont peut-être il pourra nous dire aussi un mot, je ne sais pas, sur d'autres activités documentaires ou littéraires, en effet, nous emmène à penser que eh bien, grâce à des médias comme Arte, grâce à des institutions comme le CNC, les Alliances françaises, on a là des objets de soft power, hein, j'ose le mot en français, donc d'influence pour l'Europe vis-à-vis du monde. C'est important cette culture. Moi, je vois mon fils à 10 ans. Il est extrêmement attiré vers le Japon du fait des mangas. Donc, ce sont des... Et puis, d'autres l'ont été avant par rapport à Hollywood. Donc, on voit qu'il y a un véritable enjeu pour l'Europe à se doter d'outils culturels et qui vont faire que l'Europe sera attractive. Et puis, tout simplement aussi, qu'on va se reconnaître les uns par rapport aux autres, bien vivre ensemble. Voilà, autant de sujets que j'aimerais qu'on puisse donc aborder ce soir. Et un grand merci, Jérôme Clément, de nous faire la gentillesse d'être à Bordeaux pour cette consultation citoyenne. Voilà, pour vous expliquer très rapidement l'exercice donc ce petit jeu démocratique. Donc, les consultations citoyennes, c'est un événement qui a été voulu par le président de la République, Emmanuel Macron, pour mobiliser avant les élections européennes. Je ne sais pas si vous connaissez le résultat des élections européennes de 2014, mais il n'est pas certain que ce soit les plus europhiles qui soient sortis premiers des urnes. En France, en tous les cas. Donc, il y a un véritable enjeu, je pense, à ce qu'on se retrouve, on puisse évoquer la question de l'Europe autour de nous, et surtout au plus près des gens qui ne sont pas forcément concernés par l'Europe. En tout cas, ne se sentent pas concernés par l'Europe. Donc voilà, donc, ce soir, l'idée, c'est de pouvoir vous donner beaucoup la parole aussi en termes de, d'avis, de propositions, de critiques aussi sur l'Europe. Il ne faut pas hésiter à donner la parole à ceux qui critiquent l'Europe. En tous les cas, il faut pouvoir laisser chacun s'exprimer et c'est le but un petit peu de cet événement. Alors, premier temps, je vais bientôt rendre le micro justement à Laurence, Jérôme et Norbert pour qu'ils puissent expliquer justement leur vision, leur projet actuel et leur expérience. Comment est-ce que justement, pour eux, derrière, il y a des défis pour l'Europe. C'est un peu la première séquence de notre débat. Alors, j'ai Annick ici présente, qui est très sympathiquement m'a proposé de distribuer, et je peux aussi aider, à chacun de vous, des post-it. Donc, j'aimerais que vous en saisissiez. Il y en a plusieurs paquets avec des stylos. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, ça serait que vous ayez une idée d'un défi pour l'Europe, lié à la culture, aux médias ou à la citoyenneté, et qu'au fur et à mesure de l'expression de nos intervenants ce soir, vous puissiez en effet rebondir sur ce défi pour l'Europe qui est important pour vous, cette critique peut-être que vous faites à l'Europe, et peut-être, voilà. Et la deuxième phase du débat de ce soir, c'est plutôt l'axe proposition des idées que vous pourriez avoir pour qu'en effet, on puisse répondre à ces défis. Donc, premier moment, s'il vous plaît, j'aimerais que tout le monde essaye de jouer. Donc, je récupérerai les post-it après les présentations successives que peuvent nous faire nos intervenants. Voilà, et puis pour finir, je voulais juste vous dire évidemment que sur Twitter et Facebook, vous avez un hashtag qui est « Quelle est votre Europe ?». Et donc, c'est un événement qui est enregistré, qui est filmé et diffusé sur différentes plateformes et sur lequel on va avoir quelques questions qui vont émerger, je pense, sur les réseaux sociaux, qu'on va aussi prendre en compte. Voilà. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Laurence, qui va pouvoir nous expliquer ce projet de radio locale, radio européenne, donc culturelle, donc c'est de la citoyenneté, évidemment c'est un média. Laurence, je te laisse expliquer un petit peu ce projet européen.
Alors bonsoir à tous et à toutes. Dans un premier temps, je suis contente d'être parmi vous et à Bordeaux. Alors le projet E-Radio, c'est un projet qui est né il y a 11 ans. Au lendemain du référendum, en 2005, on a tous fait un constat qu'on connaissait peu les politiques européennes, qu'on avait du mal à se positionner les uns et les autres, que dans nos cercles d'amis, ça avait laissé beaucoup de traces. On a eu beaucoup de discussions, que ça avait laissé beaucoup de traces et qu'il était peut-être grand temps de faire quelque chose. Moi, le constat que je faisais en étant journaliste, c'est qu'il y avait à ce moment-là, eu quand même de la formation européenne, mais qu'elle partait dans tous les sens, que les journalistes français n'étaient pas réellement formés pour pouvoir traiter du sujet, et que du coup, ça avait donné les discussions qu'on a connues, où personne ne savait réellement où trouver de l'information. Voilà, donc ça m'a vraiment perturbée, ça m'a peinée. J'avais ces valeurs-là depuis toute petite, donc le projet européen était important pour moi. Et donc, en 2005, je me suis dit qu'il était grand temps de réagir, qu'on ne pouvait pas tout le temps rouspéter et que par moments, on avait une responsabilité. Donc, du coup, ma responsabilité à moi, c'était de me dire qu'est-ce que tu fais ? Et je me suis dit, bien, voilà, peut-être qu'il faut faire émerger aujourd'hui, plutôt que d'attendre que les médias traitent correctement l'Europe et le projet européen, il serait peut-être bon, peut-être, de faire un projet qui parle d'Europe. Et je me suis lancée dans l'aventure. Donc, j'ai répondu à un appel du CSA français. J'ai obtenu une fréquence française à Nantes grâce à pas mal de gens qui sont venus me rejoindre, qui m'ont aidé à faire le dossier. Jérôme Clément en fait partie, puisqu'il a écrit également une belle lettre de soutien et fait un beau message pour le CSA, pour dire que c'était peut-être important, en tout cas, d'avoir un média européen, enfin, de faire émerger un média européen. Donc cette aventure est partie de Nantes. Au départ, je me suis dit, voilà, je vais voir comment l'Europe agit dans ma ville, comment l'Europe, à un moment donné, a des répercussions sur la vie nantaise. Et donc, cette radio est née en mai 2007. Alors, elle est née avec des bénévoles, parce qu'il y a trois niveaux à cette fusée radio. Il y a des bénévoles qui y travaillent, il y a des journalistes professionnels. Et puis, comme j'avais au départ beaucoup rouspété sur les journalistes qui faisaient tout et n'importe quoi, je me suis dit que ça manquait de formation. Donc, il fallait former une nouvelle génération à l'information européenne. Et donc, du coup, à côté de radio, il y a aussi une radio-école. On forme donc des jeunes gens qui viennent de toute l'Europe pendant 6 mois. Et ils doivent, à partir du territoire, faire une mise en perspective des sujets et des problématiques qu'ils trouvent sur notre territoire. Alors, c'est pas forcément facile, hein, parce qu'on leur demande d'abord de faire tout ça en français, puisqu'on parle français également sur cette radio, pas que d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était de le faire en français. Voilà, donc l'aventure radio est née comme ça. Elle a 10 ans aujourd'hui. Elle a des jeunes journalistes qui aujourd'hui se retrouvent dans les grands médias européens. Voilà, on en a beaucoup à la BBC, beaucoup sur la Deutsche Welle, beaucoup à la RNE. Et aujourd'hui, on prend un gros tournant, puisque c'est une belle réussite radio. Puisque quand j'ai commencé, on m'a dit, de toute façon, t'es complètement folle. L'Europe, c'était le constat qu'on faisait déjà sur le projet européen, mais d'y adosser une radio à côté, tout le monde m'a dit... Laurence, tu vas avoir 2 auditeurs derrière le poste. 2 auditeurs. Enfin, tu vas déployer une énergie seulement pour avoir 2 auditeurs. Et aujourd'hui, cette radio a 96 700 auditeurs. Voilà. Donc, c'est pour nous une énorme réussite. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter à Nantes, qu'on avait une responsabilité vis-à-vis des autres territoires, que nos territoires sont généralement... c'est là où se... où on invente des transitions qui sont reprises aussi par des grands groupes, des transitions qui remontent et qui alimentent également le projet européen. Donc il était ridicule de rester seulement sur Nantes. Et donc on a pris le prétexte d'un lancement. Vous savez que la télé, à un moment donné, a changé et est passée à la TNT. Donc il y a une nouvelle norme technologique qui arrive, qui s'appelle le DAB+. Et qui va faire que nos radios, à un moment donné, vont muter sur cette nouvelle norme technologique. Alors, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps avant de pouvoir étendre mon projet et d'y réfléchir un peu plus longuement, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Et je ne voulais pas partir après le train, puisque avec le DAB+, et le CSA, quand le CSA va allouer ses fréquences, elles seront allouées pour 10 ans. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas partir après. Voilà, donc... ça m'a demandé beaucoup de travail avec mon équipe, mais aujourd'hui, nous répondons à tous les appels d'offres du CSA pour faire qu'une radio Nantes naisse également sur tous les territoires français.
Et vous pensez à Bordeaux.
Voilà, et également Bordeaux, et que du coup, on puisse créer un média qui est un média national.
Quelle autre ville, là, vous avez Laurence?
Alors là, pour l'instant, voilà, on a réussi à avoir... Lille, Lyon, Strasbourg, pour moi c'était important, parce que ce sont des villes importantes, elles sont frontalières également, donc très important pour ce projet de radio. Donc Lyon, Lille, Strasbourg, on a Nantes, qu'on avait déjà en FM, mais qu'on devait ressolliciter sur le DAB+, Nantes, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre, et on prépare donc les dossiers aujourd'hui de Bordeaux et de Toulouse, et en sachant qu'après arriveront Paris, Nice, Marseille. Oui. Voilà. Alors, donc, au départ, c'est de se dire qu'on voudrait monter ce projet-là. Alors, on est très ambitieux, hein, très ambitieux, pas pour gagner de l'argent. Hein, ce n'est pas du tout mon projet. Mon projet, c'est vraiment de porter les valeurs sur ces territoires-là, des valeurs qui sont des valeurs européennes, et de monter ces médias. Mais après, ce n'est pas de s'arrêter à la France. Le projet va au-delà de la France. C'est de se dire que si la France arrive à monter ce média-là, c'est après de les déployer sur les autres territoire et dans les autres États membres. Voilà. Donc, pour ça, à Nantes, on fait suivre ce projet à la ville d'Hambourg pour voir comment ça se passe. Et peut-être que Hambourg sera peut-être la première ville allemande à récupérer le projet, en tout cas, on l'espère.
Donc, il y a la question des jumelages aussi de ville à ville. Là où vous implantez, il y a aussi la question des jumelages qui sont questionnés. Donc, tout se tient et c'est un projet d'avenir, apparemment.
Et puis, on s'était fait une réflexion avec l'ensemble de l'équipe sur le modèle économique de ce projet. Parce que, voilà, aujourd'hui, Euradio Nantes est financée par les institutions locales, donc toutes les institutions locales de ma région. Mais on s'est dit que il fallait pas s'arrêter simplement aux institutions locales. En fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, il y a des gens qui ne pourront pas faire marche arrière et qui savent que le projet européen est important. Ce sont les grands patrons, les patrons tout court d'ailleurs, patrons de PME, parce que un retour en arrière, ça serait dramatique. Donc aujourd'hui, c'est aussi d'aller chercher ces grands patrons. Et de les rendre responsables avec nous de ce projet européen pour monter les radios partout, donc d'avoir un modèle économique mixte. Et pour avoir un modèle économique mixte, on a créé une fondation qui aujourd'hui va être hébergée par la Fondation Hippocrène, qui est donc une fondation qui partage les mêmes valeurs que les miennes, des valeurs européennes, qui est très proche du projet européen. Et en ça, on espère pouvoir monter donc un nouveau projet, mais un nouveau projet avec un nouveau modèle économique qui n'a jamais existé en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez tous les médias français appartiennent à 20 industriels, à part je mets le service public bien évidemment de côté, mais ce sont des grands patrons. Mais on n'a jamais tenté une fondation au-dessus d'un média. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de monter, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et de développer ça dans toutes les grandes métropoles françaises. Alors, c'est pas évident du tout à monter ce projet-là, mais je pense qu'il est nécessaire, réellement.
Alors, donc on voit bien en effet l'intérêt du secteur privé aussi à être sur ces projets. Dans la mesure où même le secteur de la finance avec le Brexit est vraiment impacté économiquement. Et donc il y a des vrais risques et des vrais enjeux aussi pour les acteurs en effet privés aussi à être dans des projets de ce type. Voilà, merci. Du coup, on va rebondir, on va revenir sur Radio. Jérôme Clément, on va rester sur le thème des médias européens, mais pas que, peut-être de la production audiovisuelle, d'autres sujets, de la production intellectuelle. Je pense qu'on est en effet, c'est le principe même de l'Europe, c'est penser à plusieurs, profiter des échanges, et l'Europe existe depuis que l'homme circule. Hein, donc voilà, comment est-ce que vous, de par bien sûr les origines du projet Arte, puisque comme Laurence, avec bien sûr toutes choses égales par ailleurs, vous avez en effet aussi dû réfléchir au-delà des zones de confort, des zones institutionnelles, nationales, créer des coopérations, aller chercher, proposer un projet qui semblait peut-être farfelu à certains au début. Comment c'est apparu? Et après, comment est-ce que vous en avez fait, Jérôme Clément, une espèce de d'ADN européen dans tous vos projets?
D'abord, je voudrais vous saluer tous. Vous dire que je suis content d'être ici pour ce débat. J'ai soutenu effectivement le projet de Laurence Ambron parce que c'était une initiative importante d'essayer de créer une radio européenne par l'intermédiaire surtout en partant d'une initiative locale. C'est quand même une caractéristique peu fréquente. Ça vient toujours d'en haut et puis ensuite ça redescend plus ou moins. Et là, c'est pas du tout, c'est l'inverse. Ça part d'une région, d'une ville. Et ça cherche à se développer un peu partout. C'est un combat, comme toutes ces batailles, toutes ces initiatives, il faut être tenace. Hein. Il faut avoir les épaules pour arriver à progresser dans un univers où on n'est pas toujours attendu, où il y a une concurrence énorme et où on a des objectifs désintéressés. Donc je salue le travail de Laurence parce que pour avoir suivi ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, maintenant je vois que je sais ce qu'il faut de courage pour arriver à mener ce genre de projet à bien et à les faire vivre. Alors Arte, c'était un peu l'inverse, puisque c'est une décision qui a été prise par deux chefs d'État, le président de la République, François Mitterrand à l'époque, et Helmut Kohl, chancelier d'Allemagne, une volonté politique clairement affirmée, réconcilier la France et l'Allemagne, pas seulement en faisant du charbon et de l'acier ou du commerce, mais aussi par l'idée de mettre en commun un imaginaire. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est un projet franco-allemand, c'est une initiative franco-allemande, c'est pas une initiative européenne. Et j'ai jamais eu de soutien très clair de la part des institutions européennes. Ils disaient, bon, bah, si les Allemands et les Français veulent faire ça, c'est bien. Mais l'idée était quand même de faire une télévision européenne avec tous les pays. Mais il n'y a jamais eu de décision institutionnelle, communautaire, politique, de créer une télévision commune. Pourquoi ? C'est un sujet sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Je vous dirai ce que j'en pense, si vous le souhaitez. Je ne vais pas à ce stade. Oui, enfin, je vais... si vous voulez que je parle de ça maintenant, bon, si vous voulez, je ne vais pas être trop long non plus. Mais, en fait, quand il s'agit de mettre en commun la fabrication du charbon, de produire du charbon ou d'échanger de l'acier, si je prends le point de départ, c'est assez facile. Hein, c'est pas, tout le monde y a intérêt à échanger, à produire, à commercer, etc. Quand on touche à des sujets aussi sensibles que la culture, chacun, on en a parlé tout à l'heure à la salle en dessous, a des idées très particulières parce qu'on touche à des domaines qui sont très intimes, en fait. On se sent français, on se sent allemand, on se sent scandinave, Pays-Bas, etc. Alors on sait qu'on a des choses en commun. D'abord, tout le monde s'est fait la guerre, il y a eu des tas de bagarres entre les uns et les autres, les territoires ont été tantôt aux uns, tantôt aux autres, les populations ont été mélangées, il y a eu les guerres de religion. Bref, tout ça, ça crée des liens, finalement. Il y a aussi des périodes de paix, de prospérité, etc. Mais quand même, de là, il n'y a rien de plus personnel et de plus national, finalement, que la culture. Donc, arriver à mettre d'accord des pays, même 6, et puis 10, et puis 12, et puis etc., 28... sur une conception commune d'une politique culturelle, ça c'est autre chose. Parce que les législations nationales ne sont pas les mêmes, le rapport à la culture est très différent, le rôle de l'État dans chacun de ces pays n'est pas conçu de la même façon, et donc on voit bien que ce n'est pas une mince affaire. Et de fait, quand j'entends dire souvent répéter cette phrase qu'on attribue à Jean Monnet, si c'était à refaire, je commencerai par la culture. D'abord, il ne l'a jamais dit. Hein, c'est une invention d'Hélène Arveiller, recteur de l'Université de Paris, qui a dit un jour Jean Monnet aurait pu dire, etc. Bon, enfin, en fait, il ne l'a pas dit, mais peu importe. Ça a fait mouche et tout le monde pense ça. Mais c'était impossible, quoi. Si on avait commencé par la culture, on ne serait jamais arrivé à rien. Il y avait trop d'antagonisme. Il y avait trop d'idées différentes, il y avait trop de sensibilités différentes. Ça serait quand même extrêmement compliqué. Donc, prudemment, quand il s'agit de mettre au point des politiques communautaires, on peut y arriver avec quelles difficultés pour l'agriculture. Après le charbon et l'acier, on a pu y arriver laborieusement pour un certain nombre de pays pour la monnaie. Mais la culture, ça a été compliqué. Donc, on l'a fait entre deux pays. Mais ce que j'ai essayé de faire, moi, comme président d'Arte, une fois que ça a existé, ce qui a été très difficile au début, hein. On a oublié, tout le monde croit que ça existe. Je vois parfois des étudiants, j'enseigne, ou des gens qui ont l'impression que ça a toujours été là, que ça a toujours été facile. Bon, ils n'étaient pas nés, évidemment, mais ça a été une sacrée bataille. Et j'ai essayé de voir les uns et les autres. Je suis allé en Italie, je suis allé en Grande-Bretagne, en Espagne, en Pologne, en République tchèque, dans tous ces pays, pour voir si on pouvait arriver à étendre. Ça a été très difficile. J'y suis arrivé de temps en temps, pour quelques années. En Espagne, il y avait les Noches Tematicas sur la 2. Bon, on a pu passer des accords, mais au bout de quelques années, ça a été remis en cause. En Italie, c'était impossible. C'est toujours accueilli à bras ouverts, on discute, on s'embrasse, on signe des papiers, des traités, on fait des conférences de presse. Et trois mois après, tout le monde... Enfin, pas tout le monde, mais eux ont tout oublié. Ils ont changé de président de la RAI, ils ont changé de truc, ils n'ont plus d'argent, ils sont organisés autrement. Pouf, ça tombe à l'eau. Donc, pour arriver à construire quelque chose de durable, il faut du temps et de la volonté. Hein. C'est pour ça que je disais que je suis très admiratif du travail de Laurence, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est très compliqué dans des domaines aussi sensibles que les médias. Et on voit bien qu'après 57 à aujourd'hui, ça fait 60 ans, on n'y est pas arrivé. Si on n'y est pas arrivé, c'est pas qu'on n'a pas forcément voulu ou essayé, c'est que c'était très compliqué.
Alors en effet, c'est un projet bilatéral franco-allemand, mais est-ce que quand même sur du bilatéral, on ne fait pas quand même progresser une vision, une citoyenneté quand même qui va vers l'Europe? Ça, c'est ma première objection, votre honneur. Et la deuxième, c'est qu'il y a des fonds quand même qui étaient les programmes médias, aujourd'hui Europe Créative, qui sont très faiblement dotés. Hein. Je crois que c'est 1,7 milliard pour toutes les pays qui sont bénéficiaires sur 7 ans. Donc, c'est très, très faible. Donc, voilà, il y a quand même un petit peu d'argent qui est injecté pour la création, je crois. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives, en effet, en bilatéral. Il y a Arte, il y a peut-être d'autres médias de ce type aussi qui mettent un petit peu de langue étrangère aussi dans les transistors ou autres. Comment ça fonctionne au-delà d'Arte et avec ces fonds européens?
Alors, il y a des programmes qui ont été mis en place, effectivement, le programme Média. Il y a Eurimage, que j'avais aussi créé avant, quand j'étais au CNC, qui est pour aider le cinéma. Dès l'instant qu'il y a 3 pays qui sont coproducteurs, ils peuvent bénéficier d'une aide par ce fonds qui dépend du Conseil de l'Europe, lui. Le programme Média, c'est un programme, effectivement, sur des sujets ponctuels, la traduction, la mise en place d'un certain nombre d'organismes, des aides données à tel ou tel projet. Donc, il y a des choses qui existent. Donc, il faut pas être négatif. Ne retenez pas de ce que j'ai dit que rien n'a été fait. Si, il y a eu des choses de fait, mais c'est relativement modeste par rapport à l'ambition qu'on pouvait avoir au départ sur des sujets comme ceux-là. Mais évidemment, ça a quand même progressé. Et de toute façon, tout ce qui a été fait, c'est mieux que rien. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu avoir d'autres idées, mais j'en parlerai tout à l'heure. Oui.
Très bien. Donc, la culture n'est en effet pas une priorité apparemment pour les politiques communautaires. Donc voilà, ça peut être aussi un objet de proposition, si vous le pensez. Et on vous écoutera donc sur vos avis. Mais on va laisser la parole, bien sûr, à Norbert Fradin, avec évidemment son projet de musée de la mer et de la marine. Et avec peut-être aussi, juste pour lancer peut-être un peu le débat, je ne sais pas, cette idée que les musées, votre réunion de juste avant le montre, c'est aussi une dynamique de prêt. Alors, on parle beaucoup d'Erasmus, les mobilités de personnes, mais les mobilités des œuvres aussi. Je crois que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait aussi cette idée de transférabilité, en tous les cas une politique de prêt très très ambitieuse. Hein, qu'on puisse prêter la Joconde, peut-être, je sais pas, aux Ukrainiens, pour leur expliquer que quand même il y a un lien quand même avec leur culture européenne, avec cette culture occidentale. Enfin voilà, je pense que la culture c'est aussi un élément aussi de ciment. Hein, voilà. Donc comment est-ce que ce musée de la mer et de la marine à la fois s'inscrit localement, nationalement et dans un cadre un petit peu plus large, à travers son sujet et puis peut-être à travers ses projets?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, le problème de la culture au sens large, de voir qu'est-ce qu'elle intègre, la culture, le patrimoine, l'art sous toutes ses formes. Et c'est un sujet tellement vaste que je ne vais pas trop parler de médias parce que je n'y connais pas grand-chose, bien que nous soyons en train de monter avec le groupe Sud-Ouest quelque chose. Un média internet sur la mer, sur les océans, sur tous les sujets qui touchent justement à la mer, à la marine, globalement. Mais le musée est un bébé musée aujourd'hui. Il va être important, il va être gros au niveau de sa taille, mais il est au stade d'embryon. Nous sommes en train de mettre en œuvre des partenariats. Vous avez parlé bien sûr de Marmottan, mais il y en a d'autres avec la BNF, avec d'autres grands musées. Effectivement, il y a des possibilités d'échange bien sûr avec les musées français, mais également avec les musées européens. Je voudrais revenir, et puis le thème, bien sûr, j'en reparlerai tout à l'heure, des océans, de la marine, de la navigation, qui est un sujet vaste et qui ouvre, bien sûr, tous les horizons possibles. Mais je voudrais revenir peut-être à ce dont vous parliez, c'est-à-dire que vous aviez des difficultés à mettre en place des choses au niveau, on va dire, des élites, enfin, ou des responsables, ou des décisionnaires. Moi, j'ai une petite expérience en dehors du musée de la mer et de la marine sur un certain nombre de sites que j'accompagne depuis un certain nombre d'années, voire un peu plus, et qui sont dans la région des sites médiévaux que je mets à disposition des associations locales qui les gèrent et qui accueillent bien sûr beaucoup de personnes de tout pays et beaucoup bien sûr de personnes de l'Union européenne. L'appréhension de ces sites, de ce patrimoine, de cette culture par la base, si je peux m'exprimer ainsi, par les utilisateurs, les visiteurs, voilà, est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire que, bon, j'ai quelques expériences, mais je vais citer un exemple qui m'avait frappé pour les journées du patrimoine. Je prends ma voiture et je fais le tour. Je pars de Bordeaux, je vais à Villandreau. Je passe par un autre site qui est à l'est de la Gironde et je termine par un site médiéval qui se trouve en Charente, qui est le château de Villebois-Lavalette, qui est une forteresse du XIIe siècle. Et lorsque j'arrive, la présidente de l'association qui gère le site vient me voir, elle me dit, voilà, on a vraiment un problème, il y a beaucoup de monde, les visites guidées ne suffisent pas, les gens attendent, ils ne sont pas contents, et est-ce que vous pourriez dire quelque chose, dire un mot ? Qu'est-ce que je peux bien dire ? Puis je dis, voyons, finalement, je vais m'adresser à eux, à leur perception justement d'Européens, parce qu'il y avait toutes les nationalités qui étaient là, il y avait des Allemands, des Belges, il y a des Français, peut-être 200 personnes qui attendaient. Et je leur dis, écoutez, vous êtes là, vous attendez, et c'est bien que vous attendiez, parce que la culture et le patrimoine, ça se mérite. Et quand vous allez être sorti de ce lieu, que vous allez pouvoir vous dire que vous avez passé un bon moment, vous avez vu quelque chose d'agréable, et que vous avez pris un morceau d'enseignement, de culture à la suite de votre visite, vous reviendrez chez vous et vous serez vous-même les porteurs de ce message. Vous serez vous-même les acteurs de la propagation, de la protection du patrimoine, de la culture, etc. Et c'est vrai que tout le monde était ravi. Bon, applaudi, ils sont venus me voir. Ils me disent, mais oui, vous avez raison, parce que voilà, on est peut-être quelquefois un peu trop égoïste. Je crois qu'il y a un vrai discours, et vous le portez à l'évidence, d'arriver à dire aux gens, mais voilà, vous êtes vous-même des acteurs, chacun à son niveau. Voilà, bon, donc ça, c'est l'expérience liée au château médiévaux. Mais bon, pour le musée de la mer, enfin, voilà.
Il y a la question de ce temps, en fait, hein, c'est vrai. Moi, j'ai une réaction sur Twitter tout à l'heure, c'était est-ce que la consultation citoyenne s'adresse aussi aux plus de 50 ans ? Alors, je trouve ça un peu provocateur, mais j'ai dit finalement, en effet, c'est vrai que la citoyenneté européenne, la culture, etc., on la vit différemment selon qu'on a 20 ans, en effet, sur une première expérience à l'étranger, ou selon que... on a bien compris les différentes origines qui sont les siennes et ce qu'on doit à beaucoup de choses. Alors ce temps de la culture, des médias et des projets européens, il est forcément un petit peu plus long peut-être que sur des actions où maintenant les jeunes générations sont beaucoup habituées à l'instantanéité. Alors sur ce projet, j'imagine qu'il est un peu de longue haleine, le musée de la mer et de la marine.
Oui, alors j'en ai parlé l'autre jour avec plusieurs classes d'enfants.
D'accord.
Et deux classes entre 8 ans et 10-11 ans, le rectorat avait organisé un petit échange entre tous ces élèves, ces gamins, et puis moi, pour parler justement de ce que pouvait être un musée, de son action, de son interaction, etc. Et on est venu à parler, bien sûr, de l'Europe. Quelle est votre conscience de l'Europe ? Comment vous voyez, etc. Ça reste quand même assez abstrait. dans leur tête. Hein. C'est pas comme vous le disiez, c'est pas quelque chose de gagné, parce qu'il y a toutes les, on leur apprend l'histoire avec tous les conflits. L'Europe, c'est vieux. Au Moyen Âge, les gens circulent beaucoup. C'est la création des universités, des cités, etc. Et donc, il y a finalement moins de frontières que plus tard, avec le développement des pouvoirs centraux, la fin du Moyen Âge ou la deuxième partie du Moyen Âge où le nationalisme se met en route. Voilà. Donc, et il est resté très présent. Voilà. Mais au niveau des enfants, oui, ils ont conscience que l'Europe, mais ça reste quand même assez théorique.
Ouais, c'est ça. C'est un projet qui est politique, en tout cas, qui est récent, sur lequel finalement l'Europe communique beaucoup sur ses processus décisionnels et pas assez sur ses réalisations concrètes, peut-être. Alors, pardon, non, sauf si vous... Alors, l'idée, c'était de vous donner aussi un petit peu la parole sur ces défis un peu européens qui ont pu être abordés par des angles particuliers sur les intervenants et puis sur d'autres sujets que vous voulez prendre. Est-ce que quelqu'un a des réactions? Est-ce qu'il y a un défi justement un petit peu européen sur lequel on peut démarrer?
En zone rurale, le tourisme, c'est absolument capital. Donc personne ne se plaint du tourisme en zone rurale parce que il y a une telle asphyxie du monde rural que la survie de ces zones qui sont en grande difficulté passe aujourd'hui peut-être à 60 ou 70% par le tourisme.
Donc c'est le développement touristique grâce à l'Europe, donc des fonds qui iraient peut-être plus vers des zones rurales ou moins privilégiées par des initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, mais qui participent d'une politique de rayonnement bien conçue, bien envisagée, etc.
Alors après, Bordeaux, bien sûr, Bordeaux est un cas particulier, puisque c'est la ville préférée des Français. C'est, paraît-il, maintenant une des premières destinations au monde, touristiques au monde. Donc il y a une évolution à Bordeaux qui fait que tout d'un coup, ça devient presque chirurgical. C'est vrai, on ne reconnaît plus trop ce qu'était la ville il y a encore quelques années. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Moi, je me sens bien. Vous voyez, quand je vois ces lieux qui sont, voilà, que je accompagne, puisque je ne m'en sers pas à titre personnel, hein, mais quand je les vois remplis de monde, adultes ou enfants, puisqu'on accueille des classes, etc., je me sens bien. Ouais. Vous voyez, ouais. je n'ai pas de problème, alors que ce sont mes biens. Et c'est presque un peu triste de réhabiliter ou de faire des choses et qu'elles ne soient pas occupées par l'humain, par l'être humain, il me semble.
Donc bonne perspective pour l'orientation des fonds européens, en effet. Et Laurence, alors du coup, Nantes? Parce que Nantes, c'est le voyage à Nantes, hein, qui communique, c'est un plan de communication national. Est-ce que la culture à Nantes, est-ce que tu le sais, a peut-être a eu un modèle qui était peut-être plus digéré, peut-être plus initié par aussi des fonds, je ne sais pas, européens. En tous les cas, à Nantes, il y a peut-être une attractivité qui est différente de celle de Bordeaux, mais il y a une vraie politique, en effet, culturelle, qui est sans doute, qui rayonne, je crois, pas mal... Sur l'Europe, sur ce sujet. Après, on passe sur un autre avis.
Alors, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. C'est simplement qu'on n'a pas les mêmes atouts que Bordeaux. Donc, bien évidemment, on a été obligé de développer bien d'autres choses. Et nous, ça s'est joué sur une offre culturelle foisonnante. Et peut-être sur... aujourd'hui, ça joue beaucoup aussi sur ces fameuses machines de Lille, cet arbre au héron qui va naître, et puis ce voyage à Nantes, concocté par Jean Blaise. Donc,
Jean Blaise, voilà, je cherchais.
Mais on aime ça aussi, l'attractivité, on y tient. Alors, je ne sais pas, on n'a peut-être pas les mêmes problématiques que vous à Bordeaux, mais pour nous, c'est important. On est aussi très éloignés, nous. Donc, c'est à l'ouest. On n'a pas les mêmes atouts que vous. On n'a pas le vin, on n'a pas la vigne, on n'a pas les châteaux. On n'a pas... Voilà. Mais on a autre chose, voilà. Et qu'on développe. Et voilà. Et on est plutôt contents. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre.
Un autre avis, Jean-Luc.
Alors, merci pour vos interventions. J'ai connu les débuts d'Arte, un petit peu moins, madame, les débuts de votre radio. Ah, je comprends toutes les difficultés que vous avez dû affronter pour exister dans ce paysage audiovisuel qui était certes complexe, mais sûrement plus limité qu'aujourd'hui. Alors, ma question est la suivante. Aujourd'hui, on voit une explosion du nombre de chaînes de télévision accessibles à chacun d'entre nous. Sûrement la même chose pour les radios. Comment faire pour survivre différemment, sûrement, que de ce que vous avez connu à vos débuts, et avoir sa place justement dans ce paysage audiovisuel extraordinairement vaste et riche et varié. Alors quels sont les atouts que vous défendriez, la promotion que vous pourriez faire ici ce soir pour bien défendre et nous faire rejoindre votre future station ou regarder à nouveau Arte?
Moi, j'ai deux réponses à cette question. Une réponse un peu générale sur les questions technologiques. La technologie, elle évolue. Il faut s'en servir et l'utiliser. Quand j'ai démarré Arte, il n'y avait que des réseaux hertziens. Et puis ensuite, il y a eu le câble. Et puis ensuite, il y a eu le numérique. Et puis, etc., les satellites. Bon, il faut s'adapter pour utiliser tous ces moyens pour diffuser ce qu'on veut diffuser, j'y viendrai après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse, elle est sur les plateformes numériques. Bon, moi, j'en avais créé une ou deux, Arte plus 7, au début, personne ne me disait, tout le monde disait, mais personne ne va regarder la télévision en replay. En fait, ça a très bien marché, on avait innové à cette époque, et à l'époque, personne n'y croyait, parce qu'on se disait, les programmes, ils sont dépassés, une fois qu'ils ont été diffusés, personne ne les regardera. On regarde la télévision autrement. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les plateformes qui sont créées sur Arte, Arte Créative, Arte Concert, etc., elles sont, c'est une bonne réponse pour exister de multiples façons sur différents supports en utilisant tous ces supports qui modifient les circuits de diffusion, parfois de production et parfois de création. Voilà. Mais ma deuxième observation, c'est que ce qui est important, et moi c'est ce que j'ai toujours pensé, toujours défendu, et je continue à le penser, il faut avoir une identité forte. C'est-à-dire que ce que j'ai dit à l'instant n'est possible que si on sait ce qu'on veut dire. Si on sait ce qu'on veut dire, qu'on a une ligne éditoriale qui est claire, avec une production, j'aime pas trop le terme de produit, mais en tout cas une production qui est claire, on représente quelque chose. Qui est clairement identifié et qui touche un certain nombre de spectateurs, d'auditeurs ou de responsables. Le pire, c'est de vouloir faire comme les autres ou de se laisser influencer par le mainstream. Et alors, à ce moment-là, tout le monde se copie les uns les autres. On trouve toutes la même chose partout. Il n'y a aucune raison de regarder plus à ce moment-là ceci plutôt que cela. Si en revanche, on dit ce qu'on veut, voilà. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. En refusant de céder à la facilité, en refusant la publicité, en refusant certaines choses qui, peut-être momentanément, auraient apporté plus d'audience, mais qui, à terme, étaient très dangereux, parce que, forcément, on perd son identité, on ne sait plus très bien ce qu'on est. Donc, il faut garder une identité forte. Et à ce moment-là, les gens vous trouvent. Ils savent vous repérer. On ne les trompe pas d'abord sur la marchandise, et en plus, on est identifié, ce qui est très important. Donc il faut à la fois être très très souple sur l'utilisation et très ferme sur la ligne éditoriale.
Laurence Toulin.
Alors moi je rejoins bien évidemment Jérôme Clément. Hein. Je voudrais quand même rappeler que c'est aussi le parrain du projet, hein, Jérôme. Donc de Radio Nantes et de Radio. Et que de toute façon, je l'avais comme exemple quand j'ai monté quand même Euradio. Donc bien évidemment, je ne peux être que d'accord avec ce qu'il vient de dire. Concernant Euradio, oui, la ligne éditoriale, elle est très forte. C'est-à-dire que nous, notre ligne éditoriale, c'est... aujourd'hui, on sait qu'on a des problématiques de politique locale, problématiques de politique publique locale. Et ce qu'on fait, c'est de mettre en perspective, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de se dire, bon, ok, c'est très bien chez nous, mais que font les autres? Voilà. Et ça, je pense que chez nous, tout le monde a bien compris qu'il y a des sujets qu'on ne va pas retrouver à l'antenne, parce que ce n'est pas et ça ne colle pas à la ligne éditoriale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on applique, et là-dessus, je suis très vigilante. Je pense qu'on vient sur Radio également parce qu'on a une programmation musicale qui est détonnante. On a fait un travail à travers l'Europe qui est absolument magique. Voilà. On est allé chercher tous les petits labels indépendants et on continue à aller les chercher. C'est-à-dire qu'en fait, les titres qu'ils passent sur cette radio, vous ne les entendez nulle part ailleurs. Et ça, j'ose le dire parce que c'est important. C'est un vrai travail de mon programmateur musical et on ne les entend pas ailleurs. Voilà. Et puis, l'autre particularité, c'est qu'on ne parle pas que français et il y a des programmes où il n'y a pas de traduction. Voilà. Quand j'ai monté ce média, j'avais en tête des réflexions qui étaient les jeunes Français ne parlent pas les langues étrangères, c'est un souci. Et je me suis dit, mais bien évidemment qu'ils ne parlent pas de langues étrangères, puisque de toute façon, ils ne les entendent nulle part. C'est-à-dire que même pour la musicalité de la langue, il n'y a pas, à part Arte, un seul média qui propose des programmes en VO. Donc, du coup, eh bien, je vais passer sur une médiamétrie parce que je m'en fiche complètement. Je suis contente quand c'est positif, hein, mais je m'en fiche en fait, réellement. Et j'ai proposé, et on propose toujours, des programmes en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Et de toute façon, je voulais ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Donc, c'était simplement de l'ouvrir et de dire vous avez le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Voilà. Donc, je ne vais pas me battre pour que les gens l'écoutent. C'était simplement de dire je vais faire des programmes qui sont de qualité, trouver une programmation musicale qu'on n'entend nulle part ailleurs. Et puis, quant aux langues, si vous ne les comprenez pas, vous attendrez le programme suivant et vous vous rebrancherez. Et peut-être que vous pouvez aussi faire l'effort peut-être d'essayer de comprendre cette langue étrangère parce que les programmes qu'on met en place sont faciles aussi à comprendre. Il y a trois niveaux. Il y a des programmes qui sont en anglais et sur la culture locale. Donc, on entend les lieux, on sait à peu près ce qui se dit. Voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on apprend une langue. Donc, c'était important pour moi d'avoir réellement une couleur d'antenne. Voilà, et je pense qu'on a réussi quelque chose qui est un ovni. Hein. Souvent, les gens nous disent, quand on a découvert Radio, c'était pour nous un ovni. Sur la bande FM. Oui, ça l'est. C'est certainement ce qui me rend le plus fier aujourd'hui. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on dit et quand on parle de diversité européenne, mais quand on n'entend jamais aucun accent, quand on n'entend pas de langues étrangères, il n'y a pas de diversité européenne. Voilà. Donc c'était au moins d'offrir ça au plus grand nombre.
Bon, je crois que le message est clair. Merci, Laurence. Je reviens justement moi, de Bruxelles sur le musée de l'Europe là, qui vient d'être lancé. Et alors, on voit bien dans les musées toutes ces questions de traduction, des cartels, etc. C'est toujours assez compliqué. Et là, il n'y a aucun support textuel. Tout passe évidemment par le numérique, puisque tout doit être forcément accessible en 24 langues officielles. Donc, en fait, ils ont fait d'une contrainte énorme. Il faut savoir que les fonds destinés à la traduction dans les institutions européennes sont gigantesques. Il y a des traducteurs, je crois qu'il y a 10 000 traducteurs en fait, qui travaillent pour l'Union européenne et ses instances, eh bien là, ils en ont fait une opportunité, ils sont passés complètement par le numérique. Donc on voit là qu'il y a aussi, comme l'a dit Laurence aussi, des enjeux de diversité et d'enrichissement qui sont aussi des opportunités, certainement. Donc sur le musée aussi, j'imagine que vous allez être accessible dans les 24 langues de l'Union.
Écoutez, c'est un objectif, peut-être. Alors, ceci étant, je précise que je ne bénéficie pour l'instant, tout au moins, d'aucun fonds européen, ni même public, quel qu'il soit. Voilà. Donc c'est bien sûr un musée totalement privé.
Ce peut être un objectif, mais justement, des politiques européennes.
Complètement. Bien sûr, la barrière de la langue, c'est un véritable sujet. Nous, notre objectif, c'est de traduire en trois langues. Voilà. On essaiera d'aller plus loin. Mais bon, en tout cas, le fait est que le sujet lié à la mer, lié au port, on parlera bien sûr de l'arc atlantique, des ports de notre littoral, mais pas que. C'est aussi un musée qui est destiné à ne pas parler que de l'Europe. Voilà, les aventures de la mer, par définition, sont des aventures universelles. Donc on aurait du mal à se limiter à ça, sans aucune prétention, bien évidemment. Mais nous sommes obligés d'aller un peu plus loin que l'Europe, aussi bien d'ailleurs dans l'histoire de la navigation, qui qui va être un des grands sujets du musée, mais sur l'histoire aussi du milieu naturel, puisque une partie du musée va être destinée à faire parler également des scientifiques, des océanographes, un partenariat avec le laboratoire EPOC et avec IFREMER, pour que les scientifiques qui ont besoin aussi d'exprimer leur nouvelle découverte, le fait que tous les jours, aujourd'hui, nous sommes passés dans la verticalité, après l'horizontalité de la mer, depuis un siècle, nous sommes dans la verticalité un peu, hein, et aujourd'hui, avec les drones sous-marins, avec l'évolution de la technique, au quotidien presque, j'exagère un peu, mais nous découvrons de nouvelles espèces qui sont de véritables martiens avec possibilité de les voir dans le noir absolu. Donc tout ça, toutes ces découvertes, et pas que des espèces d'ailleurs, tout un système aujourd'hui de l'ADN marin qui permet de découvrir de nouvelles espèces sans les avoir jamais vues. Nouvelles espèces de requins, par exemple. Donc, tout ça, toutes ces découvertes, bien sûr, elles sont presque universelles.
Donc, on espère qu'on en découvre plus qu'il n'en disparaît chaque jour, en fait, bien sûr, dans les espèces vivantes, mais je lance la perche. Oui,
celles qui disparaissent. Celles que l'on découvre, elles existent voilà. depuis quelques millions d'années. Et voilà.
Alors, il n'y a pas de nouvelles espèces. Un autre avis dans la salle, et je crois qu'il y avait d'ailleurs un enjeu environnemental qui était aussi convoqué tout à l'heure.
Merci. Non, pour faire le lien avec ce que vous étiez en train de dire, j'avais une question sur les langues, justement, et la question linguistique. Et je me demandais si une façon de mieux faire Europe, ce ne serait pas d'avoir une langue commune. Alors, loin de moi l'idée de bannir les langues nationales, voire infranationales. Au contraire, je suis profondément pour la multiplication des langues, mais il me semble que pour donner du sens commun, pour se retrouver derrière quelque chose, il faudrait une langue. Alors, pourquoi l'espéranto n'a pas marché? Y a-t-il un avenir pour l'espéranto?
Et y a-t-il un autre projet? Si quelqu'un dans la salle a une idée, c'est le moment d'en parler. Hein.
Ouais. Oui, excusez-moi, je risque d'être hors sujet parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Moi, j'ai un petit peu l'impression dans ce genre de débats qui sont fort intéressants et en particulier avec la qualité de nos interlocuteurs pour tout ce qui est culture, etc. Moi, venant du domaine culturel, ancien traducteur, etc. Je ne vais pas contester quoi que ce soit. Néanmoins, je m'interroge, j'ai très peur. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, avec raison, des résultats des dernières élections européennes. Bon, moi, je suis assez affolé de voir dans le discours actuel, mais bon, je dis, il y a beaucoup de discussions actuellement sur l'Europe, etc., etc. J'ai bien l'impression qu'on est tous, moi je fais partie de la maison, je suis élu à la Maison de l'Europe, dans tous nos débats, dans tous nos projets, on fait des choses intéressantes, on fait des choses formidables autour de la citoyenneté européenne, avec les gamins. Moi, j'ai monté un projet depuis 15 ans sur la citoyenneté européenne, avec la Pologne, avec les différents pays. Bon, d'accord, mais... Oui, je pose la question, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un manque de... par rapport à tout ce qui se fait, par rapport aux belles réalisations, même comme Arte, où il y a un public qui s'est formé, etc., mais... pour les anti-européens, ce qu'on appelle les eurosceptiques, qui sont quand même en forte progression, ne nous voilons pas la face, est-ce qu'ils sont au courant du quart de ce que donne l'Europe, tant dans le domaine culturel que d'autres? Par exemple, moi, je suis bordelais. Il y a des gens qui vont prendre le tramway tous les jours. Il y a des gens qui vont prendre le pont Chaban-Delmas tous les jours, qui vont à le fonds européen qui ont servi au projet formidable autour de la Cité mondiale du vin, non pas sur le bâtiment, mais sur ce qui s'est fait autour. Des eurosceptiques en milieu rural que j'ai rencontrés et qui me disent « Nous, on est contre l'Europe. » Ah oui, mais d'accord, mais vous êtes pour la médiathèque qu'on vous a faite. Bon, et là, il y a quand même un manque, un déficit.
D'accord.
Donc, je pense qu'on a intérêt à valoriser tout ce qui se dit, absolument, tout ce que fait madame, tout ce que fait monsieur, le prochain musée, et tout ce qui est culturel. Parce que le français moyen, enfin, l'électeur moyen,
Bien sûr. Alors, du coup, on va rester sur ces deux questions parce que je crois qu'il y a, il y a deux idées à la fois sur la langue commune. Et puis, il y a aussi, moi, je pose la question dans l'esprit de la remarque qui vient d'être faite, et n'hésitez pas aussi à dire votre ressentiment aussi contre l'Europe. C'est aussi un des objectifs des consultations citoyennes, justement pour aller chercher, si possible, l'avis de ceux qui ne sont pas contents et qui ne s'expriment que dans les urnes, en effet. Et voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire, je pose un petit peu la question, comme aux États-Unis, où quand il y a des projets fédéraux, il y a toujours un petit pourcentage du budget qui est réservé à la communication vers le citoyen pour dire, voilà, Yellowstone, ça a été effectivement financé avec vos sous américains. Vous n'êtes pas que de tel État américain, vous êtes aussi un États-Unien, entre guillemets, et cet argent public mis en commun a bien servi. Donc, problème de communication. Deuxième question, comment est-ce qu'on va chercher ceux qui sont très, très loin de l'Europe ? C'est pas facile, ça. La culture peut nous y aider. Et puis, en effet, cette idée d'une langue commune, est-ce qu'on peut construire à nouveau, je m'adresse à Norbert Fradin, une nouvelle tour de Babel en plein cœur de Bordeaux ?
Oui, enfin, les jardins du musée s'entourent un peu. Bien. Donc, la langue commune, c'est vrai que c'est une belle utopie. C'est certainement un peu compliqué. Il y avait eu, à un moment donné, un projet de langue commune comme ça. Il n'y a pas eu de... Voilà. Il n'y a pas eu de suivi. Donc là, c'est un véritable changement total de d'état d'esprit. Il y a une langue commune qui est l'anglais. Bientôt, ben, en Europe, on va parler tous anglais. Je suis un peu dans l'embarras pour répondre à cette question, franchement.
Mais il n'y a rien de plus intime que la langue. Oui, ben alors ça ne change pas. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas... Il n'y a rien de plus intime que la langue. Le rapport à la langue, c'est la langue maternelle. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est la langue maternelle. Alors toucher à la maman, c'est quand même difficile, quoi. Donc je vois pas comment on pourrait arriver à faire ça par une décision politique. Ça marchera pas. Donc je crois que là, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Regardez, y a eu une volonté. Au moment de la Révolution française, en particulier, d'imposer le français comme langue unique. Et puis ça a été continué au 19e, et la 3e République aussi, l'interdiction sous la 3e République de parler les langues. Ça renaît 100 ans après, 80 ans après, ça revient. Et le problème de la langue corse, de toutes les langues qui ont une forte identité régionale, il est posé. Donc je pense que là, on est absolument pas capable d'adopter une langue commune. Même quand l'Europe était à son zénith et était à son plus haut, personne n'aurait pu ni eu la capacité de toucher à la langue. En France, moi, je vois, enfin, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays des Balkans, etc., je vois pas comment regarder quand même la Yougoslavie, qui a été aussi une création politique, etc. Ils n'ont jamais pu ni imposer une religion, ça va de soi, mais même un alphabet commun. Les Serbes étaient en cyrillique, les autres en alphabet latin, et les Croates parlent croate, et les Serbes parlent serbe. Alors c'est tout petit, quoi. C'est des territoires minuscules quand on regarde, pas plus grand qu'un département français. On peut pas tout. Enfin, c'est là, il faut faire très attention. On touche au cœur des gens quand on touche à la langue. Donc je vois pas. Bien sûr,
on peut avoir plusieurs mamans.
On pourrait se dire,
Est-ce qu'on peut pas créer peut-être une maman nouvelle ?
Oui.
Est-ce qu'on
oui.
peut avoir plusieurs mamans dans
l'idée.
La famille
Oui, mais alors quelle langue on adopterait ?
Non, mais je pense que là il faut. Enfin, c'est.
Après, il y aura le choix. C'est un problème politique, ça.
Moi, je veux simplement dire que je rejoins aussi Jérôme. Enfin, les langues ont une histoire. Et on ne peut pas revenir dessus. Et tout ce qui est imposé est rejeté. Et moi, je vais me permettre du coup de passer au deuxième sujet. La communication dont tu parles, Lucas, ce n'est pas possible aujourd'hui pour les gens. On ne peut pas éventuellement... Et l'exemple que tu donnes est un bon exemple, mais tu ne peux pas avoir des institutions européennes qui communiquent sur ce qu'elles sont en train de faire. Enfin, les gens ne veulent plus de ça. Ils ont envie d'une information qui soit libre et indépendante. À un moment donné, ces gens-là, voilà... Influe, il y a des répercussions sur la vie des citoyens et c'est eux qui font. Donc tu ne peux pas leur demander de communiquer et que éventuellement les citoyens acceptent cette communication. Non, heureusement. Moi, je trouve bien justement que certains aient un statut de défiance par rapport à ces institutions-là. Et donc, pour à un moment donné faire passer une autre information, il faut justement des médias qui en parlent autrement. Voilà, et qui auront un traitement de l'information bien différent de celle de la Commission.
Est-ce enfin, que les institutions européennes peuvent du coup participer au financement des médias indépendants européens ? Est-ce que ce serait une proposition, comme l'État français abonde aussi sur l'indépendance de médias qui sont en fragilité ? Est-ce que ce serait une piste, Laurence, selon toi ?
Oui, ça peut être une piste, de toute façon. Après,
on parle des projets européens,
toujours, de toute façon,
des institutions.
Des gens qui diront qu'à partir du moment où on est subventionné, on est pieds et mains liés. Faux, absolument faux. Enfin, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut un équilibre, de toute façon, dans le modèle économique d'un média. Mais oui, ça pourrait être également une piste, mais pas que. Voilà, pas que. Je pense qu'à un moment donné, il faut différents acteurs derrière un média, voilà, pour le rendre plus fort. Donc ça ne peut pas seulement être du privé, ça ne peut pas être seulement du financement public. Voilà. Il faut réellement trouver un certain équilibre. Voilà. Et puis, on parlait de citoyenneté, il y avait une...
Comment aller chercher les Français qui sont très très loin de l'Europe ?
Voilà. Et moi, je pense qu'il y a, de toute façon, aujourd'hui, quand vous disiez, monsieur, il y a urgence, oui, il y a urgence. Mais il y a urgence depuis maintenant... petit temps déjà. Voilà. Mais là, il y a vraiment urgence. Il y a urgence à acculturer, en tout cas, les citoyens français. Et je pense que la situation italienne, là, aujourd'hui, est très perturbante. Et je pense qu'il est grand temps de prendre des décisions, en effet, pour acculturer nos citoyens. Et acculturer nos citoyens, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va naître sur le territoire et qui va offrir la possibilité d'écouter autre chose. Voilà. Et de rappeler à quoi sert le projet européen, que l'Europe, elle existe déjà, d'ailleurs, sans le projet européen. Hein. Voilà, il y a des échanges de ville à ville, il y a une culture qui traverse les frontières. Enfin, voilà, rappeler ce qu'est Schengen aujourd'hui, parce que voilà, c'est lié aussi. Hein. On traverse tous nos frontières, mais sans savoir réellement que c'est certainement le plus beau projet issu du projet européen, en tout cas. Donc, voilà. Mais il faut acculturer rapidement. Mais il faut acculturer intelligemment. Voilà. C'est pas d'être pro-européen. Dans ce pays, il n'y a pas de débat sur le projet européen. On ne donne pas la parole à tout le monde. Voilà. Et je pense qu'il est grand temps de remettre du débat dans cette vie politique.
Alors justement.
Mais côté du projet européen.
On va passer le micro à la salle pour plusieurs interventions. Allez-y.
Oui. Alors d'abord, c'est très bien que dans une consultation citoyenne sur l'Europe, on puisse parler de culture, parce que c'est souvent éludé. J'ai participé à plusieurs réunions sur l'Europe et souvent, y compris dans des débats présidentiels, la culture était éludée. Il y a quelques années, j'ai pris une initiative, j'ai réuni au CAPC plusieurs institutions, et pas n'importe lesquelles, au niveau européen.
Les acronymes CRDC.
CAPC,
Centre d'Art français
contemporain, Musée d'Art contemporain à
Bordeaux. Il y a des gens qui ne sont pas de Bordeaux non plus.
Voilà, j'ai réuni donc dans un colloque les dirigeants du ZKM, qui est le centre le plus important en Europe, un centre d'art et de technologie des médias qui se trouve à Karlsruhe, le festival Sonar à Barcelone, les gens du NSK en Slovénie, des gens de Pologne également, et des gens du festival DEAF à Rotterdam. Toutes ces personnes sont venues donc discuter d'un festival européen à créer et qui serait chaque année itinérant dans chaque ville européenne. Il y a eu beaucoup de monde à l'auditorium du CAPC, beaucoup de monde qui ont débattu avec les différents intervenants, mais il n'y a eu aucune suite. Il n'y a eu aucune suite après. France Culture en a parlé, voilà, ils ont fait une émission d'une heure là-dessus. Mais au niveau des collectivités locales et des pouvoirs publics, il n'y a eu aucune suite. Donc, récemment, j'ai été relancé par les gens des Slovènes qui m'ont dit qu'ils savaient encore un projet européen. Ils m'ont demandé si Bordeaux était intéressé pour novembre 2019. Ils font quelque chose en Pologne en septembre. Et ils m'ont demandé si je pouvais à nouveau essayer d'alerter à la fois des partenaires des pouvoirs publics, mais aussi des partenaires européens pour voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais je suis sceptique. Je suis sceptique puisque...
Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement ? la critique de l'Europe et, oui. et peut-être une idée.
Alors la question, c'est est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ou est-ce qu'on perd du temps, quelles que soient les personnes qu'on invite, puisque les gens qui sont venus au CAPC étaient tous des gens prestigieux. Le ZKM, c'est un centre unique en Europe.
Est-ce que donc l'Europe de la culture n'est pas trop, on va dire, pas assez concrète et n'aboutit pas assez souvent sur des résultats?
Hein, est-ce que ce n'est pas une utopie? Puisque même avec des personnalités importantes comme David Lynch qui soutiennent des événements pareils, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse.
De qui?
Des collectivités locales. On dit c'est très bien, mais il n'y a aucune suite.
Et donc il y a une concurrence de projets peut-être et de budget, évidemment.
Ah oui, on parle bien sûr de budget. On disait comment est-ce possible? Voilà. Il y a toujours une question budgétaire, bien entendu. Mais il n'y a pas de volonté. Je ne sens pas une volonté politique. Autant, actuellement, il y a énormément de choses pour les différentes fêtes. Hein. Je parle fête du vin, fête du fleuve, beaucoup de choses comme ça. Mais il n'y a pas de volonté politique pour une véritable politique culturelle européenne.
OK. Merci. Un autre avis, critique, proposition?
Bonjour à tous. Je me posais la question, est-ce que ce n'est pas un luxe de développer autant la culture et le tourisme, sachant que c'est basé uniquement sur la gratuité des énergies fossiles? C'est-à-dire que ce qui me permet d'être un touriste actuellement, c'est de pouvoir aller à Prague, par exemple, pour 30 euros aller-retour. Quand on n'aura pas ce luxe de voyager gratuitement, qu'en sera-t-il des investissements qu'on a fait maintenant, genre un musée flambant neuf? Qu'en sera-t-il dans 10 ans, 15 ans, quand on n'aura pas les touristes? Donc, c'est bien beau de vouloir vulgariser la parole scientifique, mais je pense qu'on a Internet pour ça, comme outil maintenant pour faire ça, et que vouloir développer à tout prix pour attirer des touristes, c'est peut-être pas les efforts de sobriété qu'on devrait faire dans un futur monde contraint en énergie fossile.
Grand enjeu. À tout de suite, apparemment, Norbert.
Oui. Non, c'est pas... D'abord, un musée ne s'adresse pas qu'aux touristes, à proprement parler. Ça s'adresse à toute une population. Bien sûr que les touristes viennent, qu'ils abondent dans le nombre de visiteurs, mais ça s'adresse aussi à une clientèle régionale, locale. Et c'est un moyen aussi de permettre à toutes les personnes, et on va dire, on parle souvent des jeunes, des enfants, ce qui est le cas, puisque les classes peuvent venir, mais on apprend à tout âge, par définition. Et un musée, c'est une forme, effectivement, de vulgarisation, mais en même temps, reprendre ce que je disais tout à l'heure sur l'exemplarité, c'est se dire, voyons, nous sommes aussi concernés. Vous parliez d'écologie, vous parliez de développement durable, etc. Mais oui, un musée doit parler de ça et doit sensibiliser là-dessus. L'histoire de la navigation, on va partir de la préhistoire et pour arriver au 21e siècle avec un parcours chronothématique. Mais on va parler des bateaux du futur, parce qu'on ne va pas arrêter, l'humanité ne va pas d'un coup s'arrêter brutalement de se véhiculer. On est dans un cycle infernal ou autre, enfin on le qualifie comme on veut, ou vertueux, mais voilà, le tout c'est de trouver les moyens technologiques, techniques. Et aujourd'hui, par exemple, on a quelque temps Energy Observer, qui est le bateau à hydrogène, qui est venu à Bordeaux. Moi, je suis reparti dessus et qui produit son hydrogène, qui va permettre... Bon, c'est un brouillon, mais dans quelques années ou décennies, on aura peut-être eu la possibilité de conquérir ce type d'énergie et de permettre justement le transport maritime d'une manière propre. Voilà, donc c'est le porter à connaissance de toutes ces actions. Et c'est pour ça que, bon, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que des scientifiques, des océanographes puissent dire, non pas la vérité absolue, mais au moins le sentiment qu'ils ont, la façon, leur profond ressenti à un moment donné, qui n'est peut-être pas le ressenti qu'ils auront dans quelques années.
Voilà, d'accord.
Mais c'est une évolution progressive.
Merci.
Encore un avis ou deux, et après on fait un tour de réponses par ici.
Bonjour tout le monde, je voulais déjà vous remercier d'être venu. Et je voulais En gros, je vais d'abord me poser la question, en fait, quel est votre but et de le résumer globalement avec votre culture que vous voulez amener. Est-ce que c'est une culture commune? Est-ce que c'est une culture diverse que vous voulez amener? Donc, globalement, en faisant tous ces éléments avec une radio commune que vous voulez développer à une plus grande échelle, avec le musée et autres, qu'est-ce que vous visez exactement? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'amener au même résultat? Donc, c'est ça que j'essaie de comprendre. Et après, je pourrais vous poser, moi, les questions en fonction de ce que vous allez me répondre en quelques mots, comment vous allez pouvoir me résumer ça.
Intéressant. C'est parti.
Oui, je pense pas qu'il y ait de culture commune. Je pense que vous parlez de l'ensemble des cultures de tous les pays. Tous les pays ont leur propre culture et qui est intéressante, qui est passionnante. Donc il faut.
Est-ce que c'est une passion personnelle que vous avez, Norbert Fradin, pour le monde de l'océan et de la mer, et que vous voulez vulgariser pour la partager à tout un chacun? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une ambition qui est plus vaste? Est-ce qu'elle est locale? Est-ce que ça part de vous? C'est très personnel ou je ne sais pas comment.
Oui. Enfin, en ce qui me concerne, oui. De toute façon, on ne fait rien sans que ce soit une idée personnelle, sans être convaincu. Voilà. Pourquoi? Alors, je n'ai pas développé pourquoi je me suis mis à vouloir faire un musée de la mer et de la marine. Mais d'abord. Pourquoi musée? Parce que pourquoi pas centre culturel ou autre? C'est parce que effectivement c'est un musée.
Et c'est pas un projet entre guillemets politique. Vous n'avez pas une vision
pas du tout,
de vulgarisation, d'accès à la culture pour tous. Voilà, on n'est pas dans cette approche-là. Je sais pas. Alors allez-y.
Du coup, je vais poser des questions. En fait, vu qu'il y a Internet qui arrive et qu'on a une source de médias où on peut avoir tout un tas d'informations, est-ce qu'il y a besoin d'un média commun qui regroupera tout le monde à ce moment-là? Ça, c'est la première question. Ben ouais, physiquement. Est-ce qu'effectivement, on peut avoir un musée, donc avoir tout un tas de choses qui vont se faire? Moi, je sais que j'y vais plus dans les musées parce que j'y viens, je retourne j'apprends plein de choses, je ressors du musée, j'ai tout oublié. Donc, on peut prendre des choses, on peut apprendre plein d'autres trucs, mais je veux dire, il y a tellement de sources de médias actuellement que est-ce que ça vaut le coup de vraiment développer ça? Ça, c'est la première chose. Après, j'essaie de savoir, vous me dites que c'est au niveau local et après de le développer sur une plus grande échelle, mais on se constate que si c'est vraiment ce qu'il faut faire, on constate qu'au niveau des ressources financières, l'État lui-même est en train de diminuer les ressources au niveau local pour finalement les donner à une plus grande échelle. Donc finalement, est-ce que ça va être d'abord, on doit développer au niveau local pour l'avoir plus grand, mais pour ça, si on n'a plus les moyens, ça ne sert plus à rien. Et maintenant, est-ce que si maintenant l'Europe décide certaines choses, comment à niveau local, on va dire au niveau de la France ou d'autres choses? Attends, j'ai une dernière question, je ne vous embête plus.
Non, mais au contraire, allez-y.
L'autre question, c'est aussi, est-ce qu'on vraiment il y a besoin d'un projet européen? Je vous le dis directement, hein, et je suis volontairement provocateur, je suis eurosceptique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un projet européen? Est-ce qu'on n'arrive pas à faire des partenariats avec tout un tas d'autres pays qui finalement ne sont pas dans l'Europe? On va continuer à commercer avec l'Angleterre, on est bien d'accord? On ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Pourtant, ils sont en train de sortir de l'Europe. On continue à commercer avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire un projet européen? Et en plus, derrière, on ne peut pas s'opposer à tout ce qui est en train d'être fait par rapport aux alliances qu'on est en train de faire, par exemple, avec le Canada, avec tous ces éléments-là, alors que je considère que la France, si on demandait aux Français, ils seraient contre. Donc c'est pour ça qu'il y a... Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette Europe.
Ah. Qui veut répondre un peu sur cette question?
Je suis allé un peu vite. Hein.
La nuit des musées, la thématique, c'était l'Europe. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Et c'était vraiment une réussite complète. Je n'ai jamais vu autant de monde, autant de jeunes, surtout, bien sûr, parce que c'est ça qui nous préoccupe, en effet. C'est ce dont on parlait. C'est que les jeunes, les enfants fréquentent les musées. Mais cette nuit des musées est une réussite. Et cette année, sur l'Europe, vraiment, c'était une très belle surprise.
Alors, d'accord, mais moi, je pense que, justement, dans le point de vue précédent, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que l'Europe apporte en plus que les échanges internationaux n'apportent déjà. J'ai l'impression que si je peux le résumer, c'est un peu comme ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut essayer un peu de dire en quoi est-ce qu'il y a un plus de l'Europe là-dessus, sur différentes choses?
Non, mais il faut pas avoir la mémoire courte quand même. Enfin, je sais pas, moi aussi, je suis assez choqué de ce que j'entends, parce que pourquoi est-ce qu'on a fait l'Europe? Parce que pendant des siècles, on s'est fait la guerre quand même. Le XXe siècle, il y a eu deux guerres mondiales qui sont issues des oppositions entre la France, l'Allemagne, les grandes puissances, etc. Enfin, Mitterrand, dans son dernier discours à Berlin, disait très justement, le nationalisme, c'est la guerre. S'il n'y a pas l'Europe, on retombe dans le nationalisme. Et la tentation est grande en ce moment. Et il ne faut pas croire qu'une chose entraînant l'autre, à ce moment-là, il y a des... C'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer. On retombe dans les guerres commerciales, on retombe dans les affrontements économiques, et puis à un moment, ça devient des affrontements politiques, et puis ensuite, c'est des affrontements militaires. Alors, moi, je crois que là, enfin, pardon, je termine juste, je vous donne la parole tout de suite. Non, mais c'est une utopie complète de croire que la technologie va empêcher ces ferments qui sont inhérents à la nature humaine. Donc la construction européenne, elle s'est faite justement pour empêcher ça. Et il est évident que si l'Europe se défait, ben, il y aura à nouveau des guerres en Europe, comme on l'a vu d'ailleurs en Yougoslavie, ensuite et pendant dans les Balkans. Enfin, ça me paraît évident.
Si je peux me permettre. Oui, alors, d'abord, on parle toujours de la culture, mais il faudrait peut-être dire les cultures. C'est-à-dire que ce que porte, par exemple, cette radio ou Arte, c'est la diffusion des cultures, des cultures différentes. Parce que la richesse, il n'y a pas une culture, il n'y aura jamais une seule culture européenne, etc. C'est une accumulation de choses. Bon, et bien sûr que l'essentiel pour tout le monde, c'est d'avoir du travail. Ça n'empêche que d'abord, un musée, ça crée du travail aussi, pour commencer. Et puis, ça crée aussi une potentialité de diffusion de la connaissance. D'une manière qui peut être aussi un peu ludique, en particulier pour les jeunes. Un musée ne doit pas s'adresser qu'à des spécialistes. Il s'adresse forcément à une foultitude de personnes qui ont un intérêt, par exemple, pour la mer et pour la marine, mais qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau, mais qui sont curieux de savoir, qui ont au fond d'eux-mêmes quelque chose qui les fait vibrer et qui leur apporte du bonheur et de la joie et donc de la connaissance.
Oui, donc c'est se connaître mieux, se reconnaître dans l'autre, dans sa différence. En fait, c'est le principe aussi des principes de mobilité en Europe qui sont permises. Mais moi, je ne suis pas là pour avoir forcément un point de vue. Ce que je veux juste dire, c'est que ce qui est important ce soir, c'est de pouvoir entendre tous les points de vue. Et moi, je pense que les arguments qui sont proposés ici, en effet, ont l'intérêt de pouvoir rappeler aussi d'où on vient, pourquoi, en effet, l'Union européenne a été créée. C'est qu'à un moment donné, les États ne pouvaient plus s'entendre. Donc, il y a eu beaucoup de choses. En effet, c'est vrai que maintenant, un enfant qui est issu d'un couple binational, parce que son papa et sa maman se sont rencontrés dans le cadre d'un échange que l'Europe finance, parce que les États étaient volontaires. Même sur des politiques éducatives, normalement, ce sont les États qui sont décisionnaires, mais on met de l'argent en commun pour permettre, eh bien, cet enfant qui est issu de parents de deux nationalités différentes, il ne pourra plus faire la guerre. Il est coincé. Enfin, il ne peut pas choisir entre son papa et sa maman, comme disait Jérôme Clément, il ne choisit pas entre deux langues. Alors, voilà. Mais moi, ce que je trouve très important, c'est que ce soir, on puisse avoir des points de vue divergents, parce que personne n'a forcément raison. Il y a juste des éclairages de l'histoire. Et puis, il y a aussi des éléments prospectifs. Et monsieur parle, en effet, du numérique, qui est aussi un enjeu très important, à la fois pour nous lier, pour en même temps nous isoler, nous séparer. Il y a des enjeux, en effet, on parlait des plateformes tout à l'heure de production audiovisuelle. Est-ce que l'Europe est là aussi pour faire en sorte qu'il y ait des coproductions, qu'il y ait des droits d'auteur qui soient payés, que les GAFA, en effet, financent aussi et rétribuent peut-être à des médias indépendants les contenus qu'ils utilisent indûment. Peut-être que l'Union européenne a un rôle à jouer pour légiférer, c'est-à-dire pour rendre obligatoire des choses là où les États, tout seuls, sont trop faibles pour agir. Donc voilà. Mais en effet, je pense que c'est très important de garder un œil critique, et puis on a le droit de ne pas être content aussi de l'Europe qu'on a aujourd'hui. On va laisser... Laurence, dis un mot.
Je voudrais juste dire
un mot.
Pourquoi je ne fais pas une radio sur Internet? Parce que, en fait, pour moi, il est plus juste de passer par le DAB+. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire cette radio sur Internet. On pourra l'écouter. Mais vous avez l'air de défendre pas mal de choses, et notamment voilà, Internet, pour la culture, pour l'accès à la culture. Mais moi, je ne trouve pas ça juste, en fait, Internet, monsieur. D'abord parce que demain, les GAFA pourraient très bien me dire et décider de quels sont les médias qui vont être présents sur Internet. Et je pense qu'à un moment donné, il est de notre responsabilité que les médias soient accessibles à tous. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'irai pas seulement sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai décidé de développer une radio qui sera une radio, en effet, sur chaque territoire et qui passera par le DAB+. Voilà. Parce que ça, c'est juste.
De mon point de vue, si on n'écoute pas les points de vue qui sont dissonants par rapport à je pense, des points de vue qui sont admis par beaucoup. C'est là où on va se réveiller avec un gros mal de crâne. Et c'est là où, monsieur a raison, l'Europe aura mal répondu, peut-être, aux attentes des citoyens. Et je pense que c'est d'autant plus important de bien comprendre ce qui se joue. Il y a certainement des trous dans la raquette, et vous avez raison. Et donc, c'est là aussi où il y a une responsabilité, je pense, à prendre en compte ces questions. J'ai un avis tout au fond.
Non, mais moi, c'était juste un avis, j'allais dire, personnel et aussi de mère. C'est-à-dire que j'ai des enfants qui sont plus adolescents, qui sont des jeunes adultes et qui ont pu, à travers Internet ou à travers justement l'ouverture des réseaux, des trains, donc de pouvoir aller en Europe, aller visiter d'autres pays et découvrir effectivement à travers la culture, les musées et tout ça. Et je trouve que, nous, notre avis en tant que parents, c'est que c'est important que les enfants... Alors moi, je parle d'échange, c'est-à-dire que nous, effectivement, on va aller vers un autre pays, mais c'est très important qu'on puisse faire la mixité et qu'ils puissent se connaître. Enfin, faire du théâtre ensemble. Alors, c'est peut-être utopique, mais au niveau des écoles, de pouvoir avoir des échanges, bon, ça se fait déjà. Mais je pense qu'au niveau culturel, c'est ça qui est important et c'est ça qui permet à l'être humain de s'apaiser parce qu'on se connaît. Quand on ne se connaît pas, on se fait la guerre parce qu'on ne se comprend pas. Et à partir du moment où les enfants sont allés en Angleterre ou en Belgique ou en Allemagne, et nous, on a des enfants qui vont justement maintenant, qui vont travailler même en échange avec d'autres pays européens, et à ce moment-là, il n'y a plus de frontières. On ne comprend pas pourquoi, mais parce qu'on se connaît. Donc, c'est très important. Enfin, je trouve. Moi, je donne mon humble avis. Je ne suis pas du tout spécialiste.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus
aujourd'hui,
par rapport à ça?
Moi, je pense sincèrement, aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux, généralement, que les jeunes... je pense que ce serait intéressant. Alors, effectivement, il y a les radios, mais les enfants, les jeunes... Les adultes ne vont pas trop vers les radios. Alors, ils sont très, très avides de musique, de différentes musiques. Alors, ça m'intéresse beaucoup, ce que vous avez dit. Mais très important au niveau du réseau social. Ça, ils ne communiquent que comme ça. Et donc, de se découvrir comme ça. Ça, c'est vraiment la première des choses. Après, ils ont énormément de facilité de voyager à moindre coût. Aujourd'hui, les échanges sont quand même... Alors, écologiquement, je ne connais pas grand-chose, mais... Je pense qu'aujourd'hui, tous les enfants sont, enfin peut-être pas tous, mais ils sont quand même tous, en général, assez sensibles à ça. Donc ils font des échanges et ils font les blablacars, les choses comme ça. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, ça permet des échanges qui ne sont pas spécialement chers. Et donc, ils vont vers... C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne doit pas aller au musée. Au contraire, aujourd'hui, c'est très ouvert, je trouve, par rapport à ce qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça va très, très vite, quoi. Donc, je pense que, effectivement, la manière de communiquer le plus simple pour les jeunes, hein, parce que, bon, nous, à la limite, maintenant, on est un petit peu rompus aux choses, mais il faut vraiment ouvrir... Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont ouverts à l'échange. Ils ne sont pas spécialement français, ils sont déjà européens.
Ok. Un dernier avis, et puis après, on fera un tour de table un petit peu pour recueillir soit quelques avis par rapport à quelques réponses par rapport à ces avis, et puis peut-être un mot aussi sur vous, ce que vous souhaitez aussi pour les 20 prochaines années, peut-être sur l'Europe. Là, c'est quoi l'urgence? C'est parti.
Bonsoir. Alors, moi, déjà, pour contextualiser, je m'appelle Eddy Duertès, je suis directeur d'une association qui s'appelle UVS et qui est présente au sein d'un quartier qui s'appelle Les Aubiers, Bordeaux Nord. Et je contextualise volontairement parce que c'est vrai que de toutes ces questions qui ont été émises et hypothèses, j'ai très peu entendu parler des quartiers, premièrement. Deuxièmement, je n'ai entendu que très rarement le mot « jeune » et ou peut-être parce que je suis arrivé aussi en retard et je m'en excuse. Mais cela étant, en tous les cas, pour ma part, pas assez. Entendu que quand j'ai ce propos, c'est qu'effectivement, je pense qu'on est tous un peu tributaires du média, quel qu'il soit dans son ensemble, et que l'Europe, aujourd'hui, au travers du média, elle ne se dessine pas de la meilleure des manières, dans le sens où le média est confus, le média est diffus, le média est multiple. Et c'est vrai que, pour moi, le plus grand défi aujourd'hui de l'Europe, c'est de faire le lien intergénérationnel. Parce que concrètement, on a d'un côté des aînés, nourris d'une expérience, d'un vécu, d'un chemin, et des jeunes qui ne désirent qu'une seule chose, au fond, pouvoir entreprendre. Et quand je dis Ce que je dis là, c'est que je prends pour, je dirais, cadre de référence le service civique, le volontariat et toutes ces démarches qui, pour rebondir un peu sur votre propos, à mes yeux aujourd'hui, sont vecteurs de ces rencontres et que je souhaite physiques et non virtuelles, parce qu'il est important que l'humain garde ce lien avec l'humain. Maintenant, ce qui, moi, m'apparaît important en termes de défi, véritablement, au-delà de ce rapport à l'intergénérationnalité, c'est de pouvoir, à un moment donné, éviter que la communication devienne une autoroute au travers de laquelle ne circulent que ceux qui ont les moyens de circuler. Entendu que l'autoroute est payante, donc je fais volontairement un petit parallèle là-dessus, parce qu'effectivement, l'accès aujourd'hui aux médias, aux musées, à toutes ces informations et ces flux, souvent est payant. Et que, nécessairement, on n'a pas tous les moyens, en vérité, au fond, de pouvoir accéder à ça. Les aubiers, revenus médians, 500 euros en moyenne, ce qui est très bas. On est en France, on est dans un quartier, on est à Bordeaux, dans une ville qui se développe. Et c'est vrai qu'on est un peu, nous, du coup, tenus à l'écart. Quand je dis nous, je parle donc, du coup, encore une fois, des quartiers. Et véritablement, pour moi, l'Europe, elle a ce défi que de faire que ces quartiers, aujourd'hui, puissent être demain révélateurs d'une réalité qui échappe, en fait, à la plupart d'entre nous. Et quand je parle des quartiers, je parle des quartiers européens. Parce qu'on parle des quartiers en France, mais la réalité de ces quartiers, elle a une dimension européenne. J'ai la chance, moi, étant de Lille, d'avoir voyagé. J'ai 40 ans, j'ai pris le temps vraiment de tracer une route qui m'a donné l'opportunité de comprendre qu'au fond, être européen, c'est avant tout se sentir citoyen du monde. Et être européen, c'est être aussi terrien avant tout. Et concrètement, ces rencontres en Europe, aujourd'hui, le média ne participe pas à les rendre possibles. Pour moi, pourquoi ? Parce que quand on regarde aujourd'hui le média, on a le sentiment d'être une cible, plus que d'être un humain, concerné par un sujet. Et rares sont, ils existent, mais en tous les cas, les contenus médias qui invitent à la réflexion, qui suscitent l'interrogation quant à la culture et l'accès à la culture en soi, du coup, puisqu'effectivement, il est onéreux parfois d'aller au musée. Je prends l'exemple du musée du vin, ce n'est pas si accessible que ça. C'est même très cher, il faut être très honnête. Moi, aujourd'hui, j'ai difficulté avec mon association d'emmener des jeunes autrement qu'au travers des relations qui sont les miennes. C'est parce qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir de très bonnes relations que je peux aujourd'hui les amener. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, je pense que l'Europe, du haut de son statut, et là, je parle plutôt avec l'étiquette qui est celle de membre du Conseil de l'Europe, parce que c'est aussi un rôle que j'ai aujourd'hui et sur les questions de jeunesse, de pouvoir impacter sur les politiques locales et leur dire, attention, ici, il est important que, effectivement, vous fassiez le lien. Effectivement, vous donniez des moyens, parce que les moyens manquent aussi pour entreprendre. Et je rebondis sur la jeunesse, parce que nécessairement, c'est elle qui, demain, fera l'avenir. Aujourd'hui, nous, on est là, on témoigne, on partage ce soir. Demain, j'aimerais, par exemple, que plus de jeunes soient présents dans l'audience, s'impliquent, participent. Et là, pour moi, et je finirai là-dessus, est la responsabilité du média, et ce, à l'échelle européenne. Parce que demain, c'est en tant qu'Européens qu'on devrait se retrouver ici pour parler de consultation citoyenne.
D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce que... On vous pose la question, comment est-ce qu'on parle d'Europe aux gens des quartiers et aux jeunes, justement, hein, comment on leur parle très simplement pour les toucher et leur faire comprendre que c'est concret, qu'il y a de l'argent public qui est partagé pour tous. Est-ce que c'est par le biais de médias, de réseaux sociaux, d'actions, d'événements, d'échanges en services civiques ou autres? Comment est-ce que vous faites, vous, pour leur parler d'Europe?
Alors, nous, pour leur parler d'Europe, déjà, concrètement, on s'implique dans l'Europe. Parce qu'en parler, c'est bien beau, mais il faut aussi s'impliquer. Donc, d'où, moi, mon engagement dans le Conseil de l'Europe, et dans le Conseil européen, pardon. Et de même manière, on organise. Alors, par exemple, pour les jeunes, on l'a fait là avec des enfants. On a deux volontaires en service civique qui sont ambassadrices de la jeunesse européenne et dont la mission est de sensibiliser, d'informer les enfants, je dis bien les enfants, parce qu'il y a des outils qui existent, à ce que l'Europe peut-être propose et se doit d'être. Et nous, l'idée derrière ça, c'est de faire de ces enfants les ambassadeurs, du coup, de l'Europe, qui répercutent l'info à leurs parents. Les parents qui viennent nous voir en s'interrogeant. Tiens, on parle d'Europe. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas autrement parler d'Europe en communiquant via le média? Et là, ce sont les enfants qui nous font des propositions parce qu'ils utilisent des téléphones, parce qu'ils utilisent des moyens et des outils. Et via ces propositions, on essaye d'accompagner la démarche pour toujours les mettre en lien. Et ça se concrétise par une volonté qu'on a et qui est assez difficile à mettre en œuvre. Une visite, par exemple, du Parlement européen, etc., etc.
Merci. Alors, on va devoir se quitter. On fait en guise de merci, et puis peut-être, Laurence, tu avais un souhait, une priorité, je ne sais pas, le président Juncker, Tajani, le président de la République française qui sont là, et puis te demande en effet ce que tu souhaites pour l'Europe et pour... Qu'est-ce que tu vas chercher?
Non, moi, ça va être très simple. Hein. Aujourd'hui, je suis très inquiète, donc... Le projet européen est très important pour moi, réellement, enfin, pour mes enfants, c'est les valeurs de ma famille, voilà, c'est une histoire familiale, donc voilà, je souhaite que ce projet se poursuive. Et quand je dis ça, je mesure ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que là, en ce moment, je trouve qu'il est véritablement en danger et qu'il se délite. Donc voilà, je souhaite la poursuite du projet européen.
Merci Norbert Fradin.
Oui, il y a certainement un toilettage à faire au niveau de l'Europe, de certaines fonctions. Mais c'est, l'Europe est essentielle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a une période de 70 ans qui n'a jamais existé dans notre histoire. Depuis 2000 ans, 70 ans sans guerre interne entre nous. Alors, donc c'est capital d'essayer d'accompagner, d'améliorer. Alors, ça peut passer bien sûr par plein de sujets, par la culture ou par l'expression de la culture ou des cultures, des échanges culturels. Oui, ça c'est vrai. Bon, il y a quelques. Je vois, moi, j'ai un sujet puisque j'accueille. L'Académie de danse de Patrick Dupont, l'ancienne caisse d'épargne. Et je vois que ce sont des gamins qui viennent de tous horizons européens, même quelquefois au-delà. Et ils se trouvent naturellement. Ça ne pose aucun problème, même s'ils ne parlent pas la même langue. Ils vont baragouiner un peu, ils vont essayer de se brouiller pour se comprendre. Ils se comprennent parfaitement. À partir du moment où il y a un sujet... Il y a compréhension, je pense. Et donc,
créer plus de rencontres.
Voilà, la réalité est là. Bon, il y a l'Alliance française aussi, qui est un vrai sujet. Enfin, vraie histoire, non.
Jérôme Clément, pour finir un message, alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Il faut quand même aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on arrive à sortir de cette impasse pour faire que les peuples européens... se parlent, se connaissent mieux, se construisent ensemble, établissent des règles communes, etc. Alors ça passe par la culture, évidemment, ça passe par la culture, mais pas seulement, et pas du tout comme un carcan. Il ne s'agit pas d'avoir une culture commune dans laquelle tout le monde sera mélangé, etc. Au contraire, les identités sont très fortes, il faut les garder, il faut simplement qu'elles puissent coexister ensemble et être valorisées l'une par l'autre. Et de ce point de vue-là, c'est ma deuxième remarque, les médias ont un rôle très important. C'est essentiel que les médias, quels qu'ils soient, les radios, les télévisions, les publics, les privés, donnent, enfin, ils ont une responsabilité très grande dans cette affaire, celle de donner, de faire prendre conscience des enjeux et de donner aux citoyens qui vont être appelés à voter l'année prochaine aux élections européennes et pas seulement dans d'autres élections locales, mais enfin, malgré tout, il y a des enjeux politiques partout et les élections européennes sont la prochaine échéance. On peut être qu'inquiet en ce moment quand on voit ce qui se passe. Et donc, le rôle des médias, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de mettre chacun après vote ce qu'il veut. Chacun se définit comme il veut. La liberté de la démocratie doit être respectée. Mais enfin, quand même, il y a une vraie responsabilité des médias dans cette affaire. Et bon, on voit bien que tous n'en ont pas conscience. Bon, les hommes politiques ont leur part de responsabilité aussi, il ne s'agit pas du tout de les exonérer et je ne suis pas du tout en train de dire c'est la faute des médias, c'est aux médias de ceci ou pas de cela, pas du tout. Je pense que dans cette affaire qui évolue en ce moment si mal, les responsabilités sont nombreuses de la part de la classe politique et de la part de il y a beaucoup d'autres choses, ça serait un autre débat qu'on pourrait avoir. Mais enfin, les médias jouent un rôle, voilà, pour fabriquer, pour moduler les opinions. Donc il est très important de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience des enjeux dont ils ont une part importante entre leurs mains. Et ça, je crois que nous tous qui avons une influence ici ou là, des responsabilités ici ou là, ou simplement des responsabilités de citoyens, on le dise, quoi, on le dise autour de nous, on l'écrive et puis on fasse en sorte que chacun en prenne conscience. Moi, je suis aussi inquiet en ce moment de voir comment les choses évoluent. Et je suis très inquiet de ce qui se passera l'année prochaine à la même époque. Donc, on a un an pour agir. Et le sujet des médias, c'est une des raisons pour laquelle je me suis engagé dans tout ce que j'ai fait. Et aussi ce soir, c'est celui-là, quoi. Il faut là-dessus tirer la sonnette d'alarme et mettre chacun en face de ses responsabilités.
Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, merci beaucoup d'être intervenu. Et puis, on fera une petite restitution, évidemment, sur cette consultation citoyenne qui sera envoyée au ministère de l'Europe des Affaires étrangères et versée dans un collectif de restitution pour le Conseil européen de décembre 2018. Le principal étant certainement ce qui vient d'être rappelé par Jérôme Clément, la parole qu'on peut porter individuellement au plus loin possible sur les acquis européens et les réalisations. Un grand merci pour votre présence et à bientôt.